Bonjour, je m'appelle Stéphanie Beneteau. Je viens de Montréal, en passant par l'Italie, la Californie et l'Ontario francophone. Et je compte depuis plus de 30 ans.
Bonjour, je m'appelle Mike Burns. Je suis Irlandais, je viens du sud-ouest de l'Irlande et je raconte des contes depuis 60 ans.
Aujourd'hui, on se rencontre pour jaser de contes. Pour lancer la discussion, on a apporté trois objets qui représentent les trois sujets dont on va vous parler.
Vous écoutez Vite ton sac, tête à tête autour du conte, balado de la Maison des arts de la parole. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Mike.
On m'a demandé d'apporter un objet qui représente le conte pour moi. Fait que, pour moi, mes premiers souvenirs du conte, c'est autour du feu. Et on revient toujours au feu. Je me suis décidé que ça me prenait de faire un fire drill, Itoctukik. Je pense qu'on dit en Inuktitut, mais je ne suis pas certain. Alors, ça, c'est normalement fait avec côte de caribou. J'en ai pas. Faut que je l'ai fait en noyer, mais j'ai eu un fond noir à faire la partie dans laquelle ça tourne ici. J'ai pris un morceau de la panache d'un orignal. Alors, cet outil-là, tu tiens pour que le morceau qui touche. Je partirai pas le feu ici. Hein? Et puis, quelque part, pour moi, le conte, c'est comme quelque chose qui nous réchauffe et qu'on se réchauffe autour. Jusqu'à nos jours encore, tu regardes le monde quand c'est les camps d'été, quand c'est au chalet, quand c'est des enfants qui sont partis avec les scouts quelque part. Ça se trouve autour du feu, puis dans le temps de le dire, y en a-tu qui connaît? Ah, ben oui. Et puis, c'est des histoires de fantômes, c'est des histoires de qu'est-ce qui se passe l'autre bout du lac, et puis, avant que tu saches, t'es bien parti pour une bonne veillée. Alors, dans ce sens-là, je trouve que le conte se fait autour du feu. Ça fait aussi, pour moi, un genre de cercle sacré qui est le même cercle qu'on a quand il y a la lumière du feu. Et on est là avec la noirceur qui nous entoure, mais on fait cette commensale, cette situation de partage, d'être ensemble. Comme tu sais très bien, le conte, s'il n'y a pas des oreilles, il n'y a pas de conte. Fait que le feu, ça fait le cercle pour moi.
C'est intéressant parce que ton objet, il est archaïque aussi, comme le conte. Il est très, 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 très vieux. Le conte, c'est vraiment très, très vieux depuis les tout débuts de l'humanité. Là. Fait que ce que je trouve d'intéressant avec ton objet, c'est que tu nous fais un pont aussi avec quelque chose qui nous appartient, l'humanité, depuis nos tout débuts, au fait. Tout comme la capacité de faire du feu, c'est quelque chose qu'on a appris très, très tôt aussi.
Même, je pense que c'est en faisant le feu, en maîtrisant le feu, qu'on est devenu humain. Et qu'on est devenu des parleurs, et inévitablement, avec la langue, qu'on est devenu des conteurs. On est quand même la plus vieille profession sur la Terre, peu importe les autres prétendants. Là,
tu sais, Mike, que je savais ce qui allait arriver. Parce que lorsqu'on m'a demandé d'apporter un objet qui représentait le conte pour moi, comme toi, j'ai eu de la difficulté au début parce que pour moi, justement, le conte est immatériel. C'est une de ses qualités les plus fondamentales. Il est immatériel. Donc, qu'est-ce que tu penses que j'ai apporté? Sans savoir, hein? Sachez, ceux qui écoutent, qu'on n'a pas organisé ça avec le gars des vues. Non? Moi, j'ai apporté des allumettes. Parce que pour moi, le conte, c'est le feu, comme toi. Et le feu est incandescent, il apporte chaleur et il apporte lumière, comme le conte. Il est toujours en train de changer, C'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans une boîte, qu'on peut fixer. On sait même que lorsqu'on prend le conte et qu'on le met dans un livre, aussi beau que cela puisse être pour transmettre, déjà, c'est pas la même chose que lorsqu'on le raconte. C'est pareil pour le feu. Et aussi, pour faire du feu, on a besoin de trois choses. On a un triangle. Et je pense que c'est vrai aussi pour le conte. Pour faire un feu, on a besoin du combustible, donc le bois en général. On peut brûler toutes sortes de choses, mais il y a le bois. On a besoin de l'oxygène. Ils appellent ça le comburant, la chose, parce qu'on n'aura pas de feu sans oxygène. Et on a besoin d'énergie, une source d'énergie pour partir l'étincelle. Et on a besoin de ces trois choses-là pour avoir du feu. Et pour moi, ça, c'est tellement vrai du conte. Parce que le bois, pour moi, c'est le conte lui-même, le matériel qu'on est en train de raconter. Il y a du bois qui brûle lentement, il y a du bois qui brûle vite, il y a du bois qui brûle super mal s'il est mouillé. Et c'est pareil pour le conte lui-même. Tu sais, si on regarde notre héritage, les contes qu'on a, il y en a qui brûlent comme du papier, puis c'est fini. Il y en a d'autres qui brûlent très, très longtemps. Il y a du bon bois pour le feu, du mauvais bois pour le feu. Donc, je ne suis pas de celles qui pensent qu'on peut raconter n'importe quoi. Je pense que ce qu'on raconte est important. Et puis, la deuxième chose dont on a besoin pour faire du feu, c'est l'oxygène, le comburant. Et puis, ben ça, pour moi, on pourrait dire que c'est le public, mais c'est plus que le public. Pour moi, c'est l'attention. L'attention du public. Parce qu'avoir un public qui ne porte pas attention, ça ne fera pas brûler. On le sait, on a déjà vécu ça. Et c'est l'attention du public, mais aussi de l'artiste. Et je dis souvent, je raconte très souvent aux enfants, puis je leur dis souvent au début, je leur explique que leur attention est la force la plus puissante du monde. Je le crois, ça. Que l'attention collective, c'est une force inouïe. Les maîtres zen nous enseignent ça. Fait que pour moi, le conte, il y a donc le conte lui-même, il y a l'attention qui est donnée par le public et l'étincelle, l'énergie, ça, je pense que c'est l'art du conteur, de la conteuse.
Et quand le conte arrive dans notre cœur, ben on a les braises qui nous gardent au chaud pendant longtemps après.
Très vrai, oui.
Moi, mon objet... Pour parler de c'est quoi le conte comme métier pour moi, mon travail de conteur, ben c'est le cuillère. Je suis fabricant de cuillères en bois. J'étais pour apporter une cuillère de bébé, mais le bébé est né, la cuillère est donnée. Fait que j'ai décidé d'apporter une autre cuillère au lieu. C'est une cuillère qu'on appelle... un Welsh Love Spoon, une cuillère d'amour du Pays de Galles. C'est les cuillères qui fabriquaient les vergers l'hiver durant pour leur bien-aimée en espérant qu'elle l'accepte. C'était comme une bague de fiançailles, si tu veux. L'idée du cuillère, c'est cette idée que le conte est pour nous nourrir. Ça me nourrit de raconter mes contes. Ça me nourrit de me faire raconter des histoires. Et quelque part, déjà tout petit bébé, mais des histoires d'amour, je pense qu'on peut les avoir toute une vie durant. Et c'était vraiment l'idée du conte comme nourriture spirituelle. Autant que nourrir la bedaine, il faut nourrir la tête, il faut nourrir l'esprit. Et... souvent, on ne sait même pas qu'est-ce que c'est la nourriture qui est dans les contes qu'on raconte. Parce que j'ai des contes que je trimballe avec moi depuis que j'ai 9 ans, 10 ans. Et tu vois quelque chose là-dedans, tu apprends quelque chose de ça. Et puis 20 ans plus tard, tu fais « Oh my God! Oh, c'est pas vrai! C'est pour ça que je l'affectionne tant et tellement! » Il est en train de me raconter ça pendant des années, puis je ne l'avais jamais vu. Et je continue à découvrir qu'il y a de plus en plus autre chose à l'intérieur de ces choses-là. Moi, je ne suis pas une personne qui aime ça, l'idée qu'on dit à la fin d'un conte, et voici le moral de l'histoire. Je trouve ça triste, parce que c'est à chacun et chacune de trouver... où ça résonne pour eux et qu'est-ce que ça leur dit. Et il y en a des choses qui sont profanes et évidentes et faciles d'accès. Il y a des choses qui sont sacrées et bien cachées, qui peuvent être tous dans le même compte. Alors, on offre la nourriture avec une louche, avec une cuillère, mais c'est à chacun et chacune de goûter la soupe et de voir qu'est-ce qu'ils vont trouver là-dedans et comment est-ce qu'ils vont être nourris par ça. Alors, de là, la cuillère, pour moi, c'est... Les fourchettes, c'est récent, ça fait quoi, 600 ans qu'on les a. Mais les cuillères, bien, ils sont presque aussi vieux que le compte. Hein?
Oui, oui. Alors, écoute, regarde, moi, pour vous présenter ma propre pratique, j'ai emmené ce châle pour les gens qui ne voient pas, mais qui entendent. C'est un châle en laine qui a de l'appliqué dessus, qui est un beau bleu foncé avec du doré, avec du turquoise. Et ce châle a été fait par une femme que tu connais bien, Josie Brown. Et il m'a été donné par Josie et par son compagnon Ron Evans. Ron, qui est un des probablement derniers porteurs d'une tradition orale ininterrompue de 10 000 ans, tu vois. Donc, un conteur métis, et non métissé, mais vraiment métis avec un M majuscule. Et la raison pour laquelle j'ai apporté ce châle pour représenter ma propre pratique, alors premièrement, il m'a été donné par deux personnes qui me sont très, très chères. Et une est britannique, avec un, comme tu sais, un accent Oxford, coupé au couteau. L'autre qui a été élevée nomade en Alberta, rejetée par la société parce qu'il était, métisse. Et ils sont métissés, eux, leur couple est mélangé. Et moi, je suis mélangée. Mon père est franco-ontarien. Déjà, c'est pas québécois, c'est déjà différent, tu sais. Ma mère est américaine, mais je suis née en Italie. J'ai passé toute ma jeunesse en Italie. J'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en Ontario et je suis arrivée à Montréal à l'âge de 13 ans. Et puis, souvent, je me suis dit, qu'est-ce que moi, je peux raconter? Au fait, toi, tu as été un des premiers conteurs que j'ai vus. Et puis, j'étais... C'est pas jalouse, c'est pas le bon mot, parce que jalouse, c'est comme si c'était une mauvaise émotion, d'accord? Mais je voyais comment tu racontais des histoires qui venaient d'une tradition qui était complètement tienne, dans laquelle tu es né et qui remonte, tu sais, des siècles et des siècles. Et l'Irlande, en plus, mon Dieu, quelle vieille culture, tu sais. Puis moi, je me disais, mais est-ce que je raconte des contes québécois? Est-ce que je raconte des contes franco-ontariens? Est-ce que je raconte des contes italiens? Est-ce que je raconte des contes américains? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai le droit de raconter? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Et ce châle... Tissage, il est tissé. Il est tissé de beaucoup d'éléments différents, tu sais. Il y a de la soie, il y a de la laine, il y a de la dentelle, il y a du doré. Et moi aussi, je suis tissée de beaucoup d'éléments différents. Et ça, j'apprends à le célébrer, tu sais. Et lorsque je raconte des histoires, c'est sûr qu'à chaque fois qu'il faut que je me pose la question, tu sais, pourquoi? C'est pas que je pense qu'on a le droit ou pas le droit. Hein. C'est pas que je dis, ah, j'ai pas le droit, sauf certaines exceptions, là. J'ai pas le droit de raconter des histoires italiennes à moins d'être italienne. Je pense pas ça. Mais il faut que je trouve la racine, là, dans cette histoire-là, il faut que je trouve où est-ce que l'histoire correspond à une racine qui est mienne aussi. Et alors ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai apporté ce châle. Puis, une autre raison, c'est que il est chaud, il est doux, il protège. On peut mettre d'autres gens à l'intérieur du châle avec nous, tu sais. Quand tu parles de la cuillère, qui est, je ne sais pas comment dire en français, nurturing, nourrissant, mais nurturing, c'est plus gros que nourrissant. C'est l'acte de protéger, de donner de l'amour, d'encercler, tu sais. Je pense que le conte fait ça. Je pense que le conte inclut, nourrit, protège, réchauffe, tout comme ta cuillère nourrit et ce châle protège et réchauffe. Je pense que quand on est à peine dans le ventre de notre mère, on entend la voix humaine. Hein. C'est une des premières choses qu'on entend. Puis je pense que juste d'entendre la voix humaine est une expérience calmante et très profonde. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le conte qui est si simple, c'est juste une voix, peut nous ramener à des expériences d'enfance, peut nous consoler, peut nous protéger, peut nous encercler. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai apporté ce châle pour ma pratique, parce que j'espère, mon intention est toujours que les contes que je raconte apportent une forme de consolation, une forme de...
C'est beau. Se faire enfirouapper dans l'amour du conte.
C'est ça.
J'adore. Tu me fais penser, j'avais 19 ans. Puis on habitait sur une île, Shirkin Island, qui est au sud du Cork. Il y a un gros festival dans l'île à côté, Ilan Clare. Et j'étais avec mon copain, Josh, et on visitait une Anglaise qui habitait dans la petite maison à l'entrée de la grosse cabane qui appartenait anciennement au landlord. Elle avait un garçon de 3 ans. Et dehors, la grande route jusqu'à Baltimore passait devant son gatehouse. Et on entend « whack » et le petit chien, le chiot de l'enfant... Et puis, c'est clair que le chien, il est mort. Alors, j'ai pris le petit jeune, je l'ai mis sur mon genou et je lui ai raconté un conte. 20 minutes, 25 minutes de conte à propos de la vie et la mort. Et il était capable, il était désolé, il était détruit quelque part, mais il était quand même bien en même temps avec ce qui venait d'arriver. C'était peut-être la première fois où j'avais compris, parce que je portais des comptes, je comptais, mais je n'avais jamais saisi à quel point ça pouvait faire cet enfirouapage, cette tendresse, douceur, cette guérison, cette image du châle qui enfirouappe, qui prend soin, qui enveloppe, qui accocoune, un cocon, je pense en français, je suis pas sûr. En tout cas,
c'est image. Même un mot maintenant, cocooning, là, tout le monde dit, je fais du cocooning. On pourrait leur dire, si vous faites du cocooning, vous pouvez emmener des contes dans votre expérience.
Alors, mon troisième objet, qui représente quelque part la médecine, la guérison du conte, c'est un bâton de marche. J'étais ici à Sherbrooke à un moment donné, chez Christian-Marie Ponce et Petronella Van Dyck, en train de façonner cette canne à marche. Puis... Mon père, il avait une canne à la fin de sa vie. Il l'utilisait quand il comptait pour marquer, pour gesticuler, pour... Alors, j'ai dit, pendant un bout de temps, j'ai dit, ça serait bien que j'en ai un. J'en ai pas de besoin encore, mais il faut être prévoyant. Et un jour, on va en avoir de besoin. Cet bâton-là et le bâton, quelque part, c'est le compte comme chemin, comme... route qu'on prend. Et sur la route, des fois, on a besoin de s'appuyer. On a besoin de support. Parfois, on a besoin d'avoir quelque chose dans les mains pour nous aider à se protéger. Et le conte, il fait ça. Il fait ça de multiples façons, selon moi. Et quand je conte, chaque conte que je conte, c'est un chemin. Et le fait de faire ce chemin-là, il y a une guérison juste à le porter, à le raconter, à le donner. Autant que le conte en tant que tel peut accompagner nos amis qui sont à l'écoute du conte en même temps. C'est sans dire qu'il y a des contes qui portent des grandes leçons de vie là-dedans. Même des contes qui ne sont pas nécessairement si didactiques que ça. Et pas juste un conte en tant que tel, mais une veillée de contes, il y a un chemin qu'il faut faire. Il peut être tortueux des fois, ça dépend le monde qui sent là. Il peut être vraiment facile, mais on va faire du chemin ensemble. Il y a du monde qui, des fois, vont pleurer dans une veillée de contes et ils ne savent même pas pourquoi.
Oui.
Parce que le conte, il va aller chercher cette vieille blessure qui était... Ils se sont accroupis autour, qui l'ont protégé, ils ne voulaient pas le toucher. Ce n'est pas un accident qu'il y a souvent le roi qui prend une deuxième femme et cette deuxième femme est très méchante avec l'enfant et ses blessures de jeunesse qui peuvent suivre du monde pendant des décennies. Des enfants blessés, il y en a partout. Et le conte, le monde, ils vont souvent penser que c'est que pour des enfants. Oui, mais on est tous des enfants. Et... on a tous besoin de se faire raconter ces contes-là. Pas juste le conte dans sa version moderne de Moth, où est-ce que le monde, ils vont parler des incidents, des faits vécus, qui peuvent être fascinants, qui peuvent être fabuleux, qui peuvent être très guérissants pour la personne des fois, qui peuvent faire rire ou pleurer du monde, mais aussi les contes qui ont voyagé depuis 50 000 ans. Il y a un article que j'ai vu cette semaine, il y a une caverne qui a été trouvée par un plongeur au large de Marseille, très près par là. 50 pieds, 75 pieds de profond, et puis là, une caverne. Le bonhomme, ça lui a pris des années pour arriver le passage d'une centaine de mètres, pour arriver dans une caverne où est-ce qu'il y avait des peintures qui datent il y a 40 000, 30 000 ans. À l'époque, l'endroit était à peu près 3 000 de la plage. Mais il y a des peintures, j'en ai vu des images, des bonhommes avec des têtes de phoque. Et tu dis, my God, je le raconte, celui-là.
Ouais.
On les porte depuis ces siècles, ces mille d'années, ces contes-là. Et il y a une raison qu'on les porte. Je ne peux pas te le dire, c'est quoi la raison. Je sais juste que je suis content que je peux les porter, que je peux les donner. On verra bien qu'est-ce que chacun et chacune va sentir quand ils vont les entendre. Mais je sais qu'il doit y avoir une raison, que c'est allé de ces bouches-là jusqu'à mes oreilles. Et il faut le continuer.
Parce que sinon, elle n'aurait pas continué. Celle qu'on a gardée et qu'on a continué à raconter, c'est parce qu'elle parlait à chaque nouvelle génération. Sinon, parce qu'il y en a des contes qu'on ne raconte plus. Il y en a plein. Et puis, il y a plein de contes aujourd'hui qui ne seront plus racontés dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Moi, l'objet que j'ai apporté, au fait, c'est pour ceux qui sont à la radio en ce moment, j'ai les mains en forme, comme si j'avais de l'eau. Au fait, dans les mains, mais il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Sauf qu'il n'y a pas vraiment rien. Parce que moi, je peux regarder ça, puis je peux voir plein de choses. Je peux imaginer, je peux inventer. Puis, est-ce que le conte est médecine, ou comment est-ce que le conte est médecine? C'est un peu la raison pour laquelle j'apporte, je vais le souffler vers toi, un petit peu de médecine. C'est que je pense que le conte est médecine dépendant de ce qu'on en fait, de ce que nos mains font avec ce conte-là. Puis pour moi, j'ai eu d'innombrables expériences avec cette question-là, mais une des plus puissantes que j'ai eues, c'est lorsque j'étais au Liban, où je pense que tu es déjà allé aussi, le festival de Djihad. Et je racontais dans un village dans les montagnes, assez loin de la capitale, où est-ce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants syriens. Parce que ça faisait juste 2 ans qu'il y avait la guerre en Syrie, 2-3 ans, et il y avait énormément de réfugiés syriens. Donc, dans cette petite école de village, la moitié des enfants qui étaient là, c'était des réfugiés syriens. L'école était francophone, mais les Syriens apprenaient juste le français, parce qu'en Syrie, ce n'est pas une langue officielle comme au Liban. Et quand je suis arrivée, c'était l'événement du village, la conteuse canadienne, il y avait les dames du village qui avaient préparé un buffet, puis elles avaient toutes des beaux bijoux, puis elles étaient habillées super chic. C'était comme un événement mondain, tu sais. Fait que j'arrive là, dans l'événement mondain, on me reçoit et tout. Puis là, je vois les enfants. Je vois les enfants qui sont assis, qui disent rien. Des enfants, en général, ça parle. C'était évident que ces enfants-là était traumatisée. C'était évident, tu vois. Fait que j'étais là, j'arrive, puis là, les dames, elles me parlent. Puis moi, je suis en train de regarder les enfants, puis je suis en train de dire, qu'est-ce que je vais raconter? Parce que je voulais vraiment être capable de donner ce que je pouvais donner à ces enfants-là, tu sais. Et puis, je sais pas, hein. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça s'est très bien passé, là. J'ai senti quelque chose de très profond. Ça a été une de mes belles, belles et grandes expériences de conte de ma vie. J'ose espérer qu'il y avait de la médecine dans ce moment-là, mais je ne peux pas vraiment le savoir, tu sais, même si je l'ai senti, là. Puis la médecine, des fois, c'est le rire. La médecine, au contraire, des fois, c'est de nous faire vivre une émotion qu'on a cachée. Il y a plein de médecines différentes. Et puis, on les contrôle pas nécessairement. Alors, il faut qu'on fasse très fort notre travail de construire du répertoire, de sentir nos histoires très profondément, de les connaître, pour que lorsqu'arrivent ces moments-là, on puisse avoir un laisser-aller total, puis laisser le conte, l'esprit du conte, les dieux du conte, le moment de rassemblement, dicter qu'est-ce qui va arriver dans ces moments de guérison. Comme toi, avec ce petit garçon, quand tu racontais au petit garçon, tu n'avais pas décidé nécessairement dans ta tête qu'est-ce qu'il faut que je raconte à ce petit garçon-là. C'est ça. C'est ça. C'est ça. J'y crois très, très fort à ça, à l'élément guérison du conte. Et puis, Mike, il y a l'autre côté de la guérison, c'est le poison.
Il y a l'utilisation du mythologie et du conte, des fois, qui peut être détourné pour faire de la propagande.
Ouais.
Et ça, c'est très important que les conteurs restent assez réveillés pour ne pas tomber dans ce piège-là. On voit maintenant, de nos jours, beaucoup de racontage qui est vraiment de la propagande et de la mésinformation et la diabolisation de l'autre, peu importe qui est l'autre.
Oui, parce que même les grands récits que toi et moi, on aime hein, si profondément, peuvent être détournés pour devenir des grands récits nationalistes qui nous opposent à l'autre. Je veux dire, Hitler, il a fait ça, là, tu sais, avec les grandes figures des récits germaniques pour dire que l'Aryen était une société supérieure. Je veux dire, autant un conte peut être utilisé pour la guérison, autant il peut être utilisé par la publicité dans le storytelling pour nous faire acheter des autos ou par les politiciens pour nous faire peur ou nous faire voter pour l'un. C'est pas, encore une fois, la raison de l'invisible dans mes mains, c'est que le conte peut être guérison, le conte peut être poison. C'est pas le conte lui-même, mais c'est l'utilisation que nous, on en fait, qui fait que ça peut devenir l'un ou l'autre.
Par contre, moi, je pense que juste le simple fait que le conte a connu un grand renouveau à travers la planète depuis la dernière 40-50 ans est déjà signe de guérison, d'intelligence, de genre d'intuition que, oups, on est en train de perdre, on vient de tourner le dos à quelque chose d'essentiel. Je pense que c'est inné chez nous. Et la capacité du monde de trahir le conte, de le tourner en poison, vient du fait que le monde a besoin d'aiguiser leurs oreilles pour savoir que c'est du bon conte ou c'est du mauvais conte. Et la plupart du monde, malheureusement, de nos jours, se font nourrir par du fast-food, du comptage, quoi. C'est d'où le fait que le conte dans des festivals, dans des veillées de conte, est essentiel.
Et à la Maison des Arts de la Parole, qui nous a invités, et que je remercie parce que pour moi d'être invitée à participer à cette conversation avec toi, quand je pense à lorsque j'étais jeune conteuse et que je te voyais sur une scène et que tu représentais... Tu représentais quelque chose de tellement extraordinaire, puis d'être capable d'être là assise à côté de toi, puis de discuter avec toi, c'est un grand bonheur et un grand honneur.
Pour moi aussi. Merci beaucoup.
On a fait ça combien de temps? On a fait 1h30, j'ai l'impression qu'on est là. 1 heure, hein? Ouais. Ah. J'ai arrêté à un moment donné, on aurait pu continuer une heure encore, lui puis moi, mais...